Donc pour ce soir, en fait, on va entamer le troisième épisode de la série de la parabole des différents terrains. Et Dieu voulant, si on a le temps, on ira jusqu'au quatrième terrain, la bonne terre. Mais nous avons vu ensemble, donc du coup, la semence, le long du chemin. Ensuite, deuxième épisode, sur le sol rocailleux. Et ce soir, on va voir la semence parmi les épines. Et si on a le temps, Dieu voulant, on ira sur la semence, sur la bonne terre. Donc, je vous propose de faire une lecture dans l'évangile de Luc, cette fois-ci, au chapitre 8, à partir du verset 5. Même à partir du verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc et quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent, c'est-à-dire croître, du verbe croître, avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Jésus s'adresse à une foule, et je le rappelle encore une fois de plus, et dans cette foule, il y a différents types de cœurs qui représentent en fait ces différentes terres que Jésus est en train d'évoquer, de décrire, c'est-à-dire le long du chemin, le sol rocailleux, le sol qui n'a rien, mais qui du coup, où la semence pousse au milieu des épines, et puis la bonne terre. Et souvent, en fait, on pourrait décrire cela de manière générale comme en fait un type de personne. Mais cela pourrait être aussi interprété et traduit aussi par le fait que c'est aussi une saison de notre vie. Il y a des saisons où notre terre se retrouve comme le long du chemin. D'autres fois, notre cœur se trouve comme ce sol rocailleux. Et parfois, et je pense peut-être même souvent, notre terre se retrouve aussi parmi les épines. Alors nous devons travailler. L'objectif demeure toujours le même, de revêtir nos gants et ensuite de travailler la terre de telle sorte à ce que lorsque la semence touche la terre, puisse porter du fruit, croître, pousser et porter du fruit. C'est l'objectif. Sinon, la parole de Dieu n'a pas de sens si elle n'est pas là pour porter du fruit et dans nos cœurs et dans les vies. Alors prenons la semence parmi les épines. Luc 8 et le verset 7, donc, dit « Une autre partie tomba au milieu des épines, les épines crurent avec elles et l'étouffèrent. » Si on doit juste observer ce qui se passe et on se met dans le contexte, nous sommes là et on voit le semeur qui jette la semence sur la terre et là on observe cette terre où il y a les épines. A priori, il n'y a pas de rocher. Donc, il n'y a pas de dureté ni de fait que la semence, elle pousse de manière superficielle à tel point qu'elle peut brûler au soleil. Donc, toutes les conditions, les propriétés de la terre seraient bonnes à ce que la semence, elle pousse et elle porte du fruit. Seulement, dans cette terre, dans ce sol, dans ces cœurs, il y a de la rivalité. Autant bien pour cette semence qui pousse, qui est la parole de Dieu, mais autant pour d'autres types de semences qui arrivent sur cette même terre, qui aussi, cette terre est aussi fertile pour ces autres semences qui arrivent à pousser et à étouffer la parole de Dieu. C'est quoi ces autres semences? Quelles sont ces autres semences qui poussent en parallèle à tel point, et peut-être même plus rapidement que la semence de la parole de Dieu qui arrive à étouffer cette dernière? Pas vraiment. Mais si on regarde le verset 14, Jésus nous en donne l'explication. Il dit, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la laissèrent étouffée. Par quoi ? Par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend pas garde. Pourquoi ? Parce que, entre autres, il y a les soucis du siècle. En retraduisant, c'est les soucis de ce monde. La séduction des richesses, ou alors l'attrait trompeur des richesses. L'invasion des autres convoitises. Une autre traduction dit toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Les soucis de ce monde, c'est quoi ? Je ne sais même pas s'il faut faire un enseignement sur les soucis de ce monde. Je pense qu'ils sont plus près de chez nous qu'on le pense. Le travail, les collègues, la recherche d'emploi, la recherche des études, d'une université, d'une direction de Dieu, la recherche du conjoint, de la conjointe. Les soucis de ce monde. Le ménage, la cuisine. Est-ce que vous êtes déjà imaginé toutes ces situations où vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, d'essayer de méditer la parole, et puis d'un coup, en fait, vous vient dans la pensée de faire quelque chose. Ah oui, il faut que j'appelle un tel. Ah oui, j'ai le poulet dans le four. Ah, il faut que je coupe les légumes. Il faut que je fasse le ménage, parce que c'est sale dans la chambre. Juste au moment où on a décidé de méditer la parole de Dieu. Juste au moment où il y a la réunion de prière. Il y a toujours quelque chose à faire. Les soucis de ce monde qui nous empêchent à ce que la semence, elle pousse et elle pousse bien. Tout autour de nous, on a des soucis. Que celui qui n'a pas de soucis lève la main. Et j'irai vous poser la question, quel est votre secret ? Encore plus subtil, les soucis qui nous empêchent. Vous êtes-vous déjà mis dans cette situation ? Enfin, je pense que c'est plutôt... Est-ce que vous avez déjà réalisé la situation où vous êtes juste en face du prédicateur ou de celui qui fait chanter, qu'importe, la forme du message ? Et puis, en fait, votre tête est ailleurs parce que, finalement, votre souci, elle est dans votre service. Et finalement, on passe à côté de la parole de Dieu. Quand je préparais ce message, il y avait cette image de Marthe et Marie qui s'imposait à moi, où Jésus était là dans la maison de Marthe et de Marie. Et puis Marthe, très bonne hôtesse, arrive et se plie en quatre pour Jésus. Et puis Marie, elle se met juste au pied de Jésus. Elle écoute et elle boit les paroles. Marthe, voyant ça, elle est scandalisée. Elle dit, mais maître, pourquoi moi je fais les choses et elle, elle reste là ? Dis-lui de m'aider. Jésus de lui dire, mais laisse, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi d'écouter la parole, l'enseignement. Parce qu'elle sait que c'est la vie. Ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est la vie. On aura tout le temps de servir dans le sens du bien-être de Jésus sur le plan hôtesse, hôte. Mais d'écouter ces paroles, c'est ce que Dieu a cherché. Et peut-être que nous, on est là et qu'on s'est dit, j'ai mal prié, ou alors j'ai mal chanté, j'ai fait un mauvais accord, une fausse note. Et puis en fait, on ressasse ça pendant le temps de la prédication, du message. Et finalement, on passe à côté du message de Dieu, qui est peut-être, ce n'est même pas peut-être, mais qui est plus important. On en oublie les choses. Parce que parfois même le service est plus devant que Dieu lui-même. Si on devait poser la question à Jésus, c'est quoi le plus important ? D'être Marthe ou d'être Marie ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas servir Dieu. Mais ça veut dire qu'au moment où en fait il faut qu'on se mette à écouter, à prendre ce temps avec le cœur à cœur avec Dieu, c'est de le faire. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, oui, il faut que je prépare le message, oui, il faut que je répète le chant, oui, il faut que je prépare la leçon du gib, Oui, il faut que je pense à telle réunion ou à telle réunion. Mais peut-être qu'avant, c'est prendre un entretien avec Dieu. Prendre notre culte personnel et de dire, attends, avant de le servir, communiquons ensemble. Prions ensemble. Parlons avec lui. Prenons le temps. Ensuite, après, le reste viendra. La séduction des richesses, l'attrait des trompeurs, l'attrait trompeur des richesses, pardon. Nous sommes là et nous pensons aussi parfois au confort. Parce que notre monde est ainsi fait. Nous poursuivons notre confort, nous poursuivons la richesse. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'on peut servir de maître, soit Dieu, soit maman. Et parfois, sans s'en rendre compte, en fait, on sert maman. Vous savez comment on le sait ? On s'en rend compte qu'en fait, du coup, on préfère choisir peut-être de travailler beaucoup plus pour avoir plus de profit matériel plutôt que de venir et de prier, de prendre du temps avec Dieu. Quand du coup, toute notre énergie est mise pour le but final d'avoir un confort plutôt que de prendre un temps de qualité avec Dieu, de recevoir sa parole. Toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Est-ce que vous savez ce que ça pouvait être ? Est-ce que vous avez pris déjà le temps de réfléchir un jour quand vous avez déjà lu la parabole des différents terrains ? Ces différentes passions qui sont là et qui sont peut-être même tout autour de nous. Ça peut être le sport. Ça peut même être le travail. Ça peut être tellement de choses. Les sorties mondaines. Même la procrastination. C'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu. Si à chaque fois on est confronté en fait à des choix dans notre vie, il y a toujours le choix de Dieu et puis autre chose. Et si parfois on arrive à choisir le autre chose et qu'on arrive à trouver une excuse qui est majoritairement et assez souvent, de toute façon, je ne raterai rien, je vais rattraper. Ce sera une prochaine fois parce que de toute façon, les rendez-vous, c'est habituel. Mon culte personnel, c'est habituel. Si je le rate, si je le fais pas ce matin, je vais le faire ce soir. La réunion du mardi soir, si je rate celle-là, je vais avoir la semaine suivante. Pourquoi ? Parce que ma passion, ce qui me tient, me garde et me prive de la présence de Dieu. Et je le considère parfois comme plus important. Vous savez, on a reçu une vidéo il n'y a pas longtemps par rapport au fait de ce que c'est qu'un croyant et de ce que c'est qu'un disciple. Et dans cette mini-vidéo, il y avait, je pense que c'est un pasteur, il disait que Dieu lui avait demandé de réduire son activité de golf. Il n'y a pas de mal, en fait, à faire du golf. Je ne sais pas s'il y a des golfeurs parmi vous. Il n'y a pas de mal à faire du sport. Il n'y a pas de mal à avoir des loisirs. Il n'y a pas de mal à passer du temps avec ses amis. Il n'y a pas de mal à passer du temps en famille. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Seulement si parfois ça prend plus de place que Dieu dans notre vie, c'est là que ça commence à être compliqué. Et c'est là qu'on arrive à construire, excusez-moi les termes, mais c'est un titre de livre que j'aime beaucoup, des idoles dans notre cœur. Les idoles de notre cœur, c'est ce qui prend la place de Dieu. C'est ce qui fait qu'on va chercher des excuses pour ne pas répondre au rendez-vous de Dieu. Si ça vous intéresse, c'est les idoles des cœurs de Timothy Keller. Vous pouvez le lire, c'est petit comme ça. C'est pas très gros, c'est une centaine de pages. Magnifique, extraordinaire. En repensant à tout ça, j'ai pensé à la parabole qui se trouve au chapitre 14 de l'évangile de Luc et au verset 16. Jusqu'au verset 24. Vous connaissez la parabole des conviés ? On la prend ensemble ? Jésus lui répondit, Donc, il répond à quelqu'un qui était à table avec lui. Et il dit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Cette parabole nous parle de l'universalité du salut, que Dieu nous invite à rentrer avec lui pour un grand festin. Mais on pourrait aussi l'interpréter dans notre sens où on dit, Dieu nous invite à chaque moment à rentrer dans sa présence. Mais nous, on a toujours une excuse, toujours quelque chose à faire qui fait qu'en fait, finalement, on reporte à plus tard pour finalement ne plus le reporter. Et c'est comme ça qu'on perd les choses. On a toujours quelque chose de mieux à faire. Je ne dis pas qu'il faut vivre une vie de fanatique, ni une vie extrêmement zélée, de telle sorte qu'en fait on néglige tout. Mais je suis extrêmement convaincu que si on est très bien organisé, tout est possible de faire, et tout en mettant Dieu en premier. Vous savez, il y avait des gens qui suivaient Jésus pour différentes raisons. Je l'explique encore parce que c'est très important de se remettre dans le contexte. Il y a des gens qui suivaient Jésus parce que c'était un grand orateur. Il y avait des gens qui suivaient Jésus parce qu'il faisait des miracles. Il y avait des gens qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus, ils étaient curieux, et toutes sortes de raisons. Et un jour, Jésus avait apporté un enseignement qui était difficile. Et puis d'un coup, en fait, cet enseignement était très difficile à comprendre. Et les gens, ils ont dit, mais ces paroles sont dures. Qui pourrait le tenir? Qui pourrait le comprendre? Ça se trouve dans Jean, au chapitre 6, au verset 60. Où donc, en fait, Jésus fait l'enseignement sur « Je suis le pain de vie. Celui qui ne mangera pas ma chair, ne boira pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle, etc. etc. » Et imaginez-vous à la place de cette foule qui reçoit cet enseignement. Imaginez même encore aujourd'hui, vous dites dans la rue, Jésus est le pain de vie, va, mange son corps, mange sa chair, il boit son sang. Allez-y, faites l'expérience dehors. Il y a des gens dehors qui disent « Hey, Jésus est le pain de vie, va le manger. » C'est mieux que Boom Burger. Et les gens qui étaient là, ils étaient choqués. Et certains sont partis. Jean 6, 60. Donc, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Si on prend la suite, ensuite, du coup, verset 66. « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, car Jésus ne correspondait pas à leurs attentes. » Vous savez, bien souvent, on arrive, on vient dans les réunions parce qu'on s'attend à quelque chose. Dieu va me guérir, Dieu va me consoler, il va se passer des choses extraordinaires. Et puis quand ça ne se passe pas, on est déçu parce qu'on a fait en fait un Dieu à notre image. On a fait Jésus qui répond à nos attentes immédiatement, de suite. Et s'il ne répond pas, ce n'est pas le Dieu que j'ai choisi de suivre. Mais bien plus que cela, l'enseignement montre que Jésus est le pain de vie. C'est-à-dire qu'au-delà de la guérison physique, au-delà de la consolation et des choses par lesquelles on passe, il dit, vous avez la vie éternelle. Et c'est bien plus important. C'est ça la semence que Dieu veut donner. La semence qui donne la vie. Et ça, Pierre l'avait compris. Au verset 67, Jésus pose cette question aux douze, il dit, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Vous avez entendu aussi l'enseignement comme les autres. Simon-Pierre, il répond, « Seigneur, à quel autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Chacun attendait le Messie comme un des juges de l'Ancien Testament, un héros, ou alors comme un roi qui allait le libérer peut-être même de l'Empire romain. Mais le Messie qui était venu là, Jésus-Christ, était celui qui allait libérer le peuple, non pas de la servitude romaine, non pas de la pauvreté, ou non pas des autres peuples, mais du péché. Et ça, c'était encore bien plus important. Et les douze avaient compris. À quel autre irions-nous ? On expose des soucis avec, ok, la semence, elle ne pousse pas bien. Pourquoi ? Parce que d'autres semences poussent. Ces semences, c'est quoi ? C'est les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les différentes passions. Et le remède, c'est quoi ? Matthieu 6. Matthieu 6, 19, 21. Jésus explique dans le sermon sur la montagne de ne pas s'inquiéter des choses. Parce qu'il s'occupe même des lits. La fleur, le lit. Pas le lit, L-I-T. Il s'occupe des oiseaux dans le ciel. Il dit, vous inquiétez de rien. Chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et c'est un super verset important, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Un peu plus tard, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez donc pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Je passe, j'ai cité les oiseaux, etc. Donc, il répète encore au verset 31. Ne vous inquiétez donc de rien et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement, c'est-à-dire en premier lieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le reste, mais que premièrement, ce qu'il faut rechercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste nous sera donné par surcroît. Dieu s'occupe de nous. Lorsqu'on s'occupe du royaume de Dieu, premièrement, Dieu prend soin de nous sur nos besoins. Il ne nous abandonne pas. Lui qui a payé un si grand prix pour notre salut. Pourquoi nous abandonnerait-il pas sur le terrain ? Pourquoi nous abandonnerait-il sur le terrain, pardon ? Pourquoi nous laisserait-il pauvres, orphelins, dans la souffrance ? Il prend soin de nous. Et notre joie ne doit pas se trouver dans les choses matérielles de ce monde, comme les épines le proposent, comme les épines le décrivent, mais la joie doit se trouver dans le Seigneur. Et on doit apprendre à rechercher notre joie dans le Seigneur. Seigneur, je manque de 3 points de suspension. Seigneur, je veux rechercher ma joie en toi. Pourquoi ? Parce que ma joie ne dépend pas des circonstances par lesquelles je passe. Mais ma joie dépend du fait que tu as donné ta vie. Et qu'aujourd'hui, le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est toi. Et que je peux marcher, je peux quitter cette terre. Mais ce qui au final est et sera, c'est que je suis avec toi. Et lorsqu'on s'attache à ces choses-là, on oublie les richesses, on oublie les soucis, on oublie les passions de ce monde qui dure. On ne va pas ramener nos passions du sport, des soirées mondaines dans le ciel. On ne va pas ramener nos soucis dans le ciel. Dans le ciel, ce sera bien. Et c'est ce que Jésus veut nous dire. C'est ce que la parole de Dieu veut nous dire. La parole de vie, lorsqu'elle pousse dans la bonne terre, une fois qu'on s'est débarrassé des ronces, une fois qu'on est là et qu'il n'y a que la bonne semence qui est là et qui pousse, la Bible nous parle de la bonne terre qui est un cœur honnête et bon. La traduction du semeur nous parle d'un cœur honnête et bien disposé. Seigneur, je prie qu'à chaque fois qu'on se rassemble, chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, chaque fois qu'on doit chanter, chaque fois qu'on est dans le culte personnel, que notre cœur soit honnête et bien disposé. Honnête à tel point que du coup, lorsque l'on se trouve le long du chemin, on n'est pas de ceux qui jugent le contenant, ni la forme, mais qu'on tient compte du sens de la parole de Dieu, de ce qui est dit, du contenu des paroles que l'on chante. Que lorsque l'on est comme ce cœur avec la terre et des cailloux dedans, qu'on soit suffisamment honnête, de telle sorte à ce que même si on a peur de perdre la face, on se recorrige, on reconsidère la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, n'oubliez pas, elle est aussi faite pour nous corriger, rectifier, des fois quand on est un petit peu bancal sur notre compréhension ou notre interprétation. Que lorsqu'on est sur la terre avec des épines, que l'on considère plus les choses spirituelles que les choses matérielles. Un cœur honnête et bien disposé. Et ça, il faut le faire à chaque fois. C'est pour ça que dans l'Évangile, il dit qu'il porte du fruit avec persévérance. C'est peut-être un mot qu'on oublie, parce qu'au XXIe siècle, on est presque dans du click and collect, et on manque de persévérance. Quand on n'est pas content d'un produit, on va directement voir le concurrent ou les concurrents, mais on manque de persévérance. Et c'est peut-être un mot qu'il faut qu'on remette au goût du jour, qu'on persévère. Je ne suis pas content, je veux persévérer. Je veux persévérer plus à te connaître, Seigneur. Toi qui es la parole faite chair, toi qui es la parole de vie. Pourquoi ? Parce que les choses matérielles, je veux les mettre de côté pour me diriger, me recentrer vers l'essentiel, Jésus-Christ. Vous savez, on parle de l'ordre des missions. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est quoi le lien avec ce que je viens de dire précédemment? Nous sommes de ceux qui faisons des disciples, mais si on ne comprend pas la leçon, la parole de vie, ce qu'on va dire aux gens, ce qu'on va témoigner finalement, ce sera un peu erroné. Alors que si on prend le temps de comprendre ces choses, l'enseignement de Dieu, si on prend le temps de bien connaître Jésus-Christ, on pourra mieux en parler. Et c'est comme ça qu'on porte du fruit. C'est comme ça qu'on arrive à du 30, du 60 et du 100 comme fruit. Vous savez, quand on entend le mot fruit, bon, on est dans l'agriculture, le fruit c'est la pomme, la poire, la cerise, et on veut que ça. Je voudrais juste vous donner une interprétation par rapport aux fruits. Pensez, quand on pense fruit, pensons résultat, conséquence. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, etc. etc. Mais essayez de le retraduire plutôt comme ça. Le fruit de l'esprit, donc la résultante de l'action de l'esprit en nous, c'est l'amour, la joie, la paix. Donc, la conséquence, le résultat de travailler notre terre de telle sorte à ce que notre terre soit bonne pour recevoir la parole de Dieu, c'est notre compréhension meilleure de Dieu qui fait qu'en sorte on est inébranlable, de telle sorte à ce que même si quelque richesse ou quelque autre souci ou quelque autre forteresse qui peut être là, qui est là, soit démontée. Parce que la chose la plus importante, c'est la parole de vie et ce que je veux communiquer. Parce que nous sommes appelés aussi à transmettre, non seulement tout autour de nous, mais aussi à la génération future. Vous qui êtes parents, vous comprenez. Vous aspirez, vous aussi, à ce que vos enfants, un jour, marchent dans les voies de Dieu. Et peut-être que nous, en tant que parents, c'est de comprendre ce que c'est la parole de vie, la parole de Dieu. On a pris le temps de décortiquer un peu chaque terrain, il y aurait toujours plus à dire. Mais j'aimerais vous laisser sur ces trois terrains et que lorsqu'à chaque fois qu'on va avoir des rendez-vous, culte personnel, louange, réunion, qu'importe, de se poser la question, aujourd'hui mon cœur est dans quel état ? Non pas pour nous juger, mais pour nous dire, Seigneur, ok, aujourd'hui je suis fatigué, Seigneur, je te prie de renouveler mes forces, je veux prendre la moindre parole que tu peux sortir, parce qu'elle est plus importante. Et c'est une discipline. Elle porte du fruit avec persévérance. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie parce que tu es le pain de vie. Je te remercie parce que tu es grand, fort et puissant. Je te remercie parce que ce que je peux peut-être savoir, Seigneur mon Dieu, de toi, ce n'est qu'une infime partie de ce que tu es. Et Seigneur mon Dieu, notre aspiration, c'est de mieux te connaître. Notre aspiration, Seigneur mon Dieu, c'est que ton amour se révèle encore beaucoup plus dans nos cœurs et dans nos vies. Toi qui nous connais, Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu, marcher avec toi, pour toi. Non pas parce que, Seigneur mon Dieu, c'est une tradition ou par superstition, mais parce que, Seigneur Jésus, nous voulons reconnaître que tu es le meilleur pour nous, que les plans que tu as formés sur nous sont les meilleurs, et que même si parfois les choses que tu nous dis sont difficiles, Seigneur mon Dieu, nous voulons être prêts à rectifier les choses, à mettre de notre ego de côté, de mettre notre orgueil de côté, à mettre nos soucis, notre fatigue et tout autre facteur qui nous empêcherait, comme dit le chant, Seigneur mon Dieu, de nous approcher de toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, le faire, Seigneur mon Dieu, parce que à quel autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, recevoir cette parole de la vie. Nous voulons que cette semence, Seigneur mon Dieu, porte du fruit dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre foyer et tout autour de nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être de ceux qui portent du fruit. Parce que, Seigneur, tu nous appelles à être ainsi, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui est grand. Et je te prie vraiment, Seigneur mon Dieu, de travailler nos cœurs. Seigneur, ce n'est pas tout le temps facile, Seigneur mon Dieu, mais nous voulons nous discipliner. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, être là, nous présenter devant toi. Merci, Seigneur Jésus, pour chaque fois que tu parles, chaque fois que, Seigneur mon Dieu, tu es là et que tu agis dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour tout, mon Dieu. Amen.